France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Avec le Décaméron et les contes de Canterbury, les Mille et Une Nuits composent dans la filmographie de Pasolini ce que l'on appelle la trilogie de la vie. En 1974, alors que le film était projeté au Festival de Cannes, où il allait être récompensé du Grand Prix spécial du jury, Pasolini était interrogé sur les Mille et Une Nuits par Roger Régent pour les matinées de France Culture. Au cours de cet entretien, Pasolini décrivait ce qui constituait la part réaliste de son film et ce qui appartenait à sa part onirique. Questionné sur ses projets, il évoquait une vie de Saint-Paul transposée au XXe siècle et ce qui constituait la base du scénario de Porno Théo Colossal. Des projets qu'il n'eut pas le temps de réaliser. Mais du film qu'il allait tourner après les Mille et Une Nuits et qui devait être le dernier, Salo ou les 120 journées de Sodome, Pasolini ne disait là pas un mot. Les matinées de France Culture, les arts du spectacle, Pier Paolo Pasolini, à propos de son film Les Mille et Une Nuits, une émission diffusée la première fois le 24 mai 1974 sur France Culture.
Nous allons commencer, si vous voulez bien, l'émission par une interview que j'ai prise à Pier Paolo Pasolini. Paolo Pasolini n'est pas à Cannes aujourd'hui, il est reparti. Et j'ai pu l'enregistrer, donc avant son départ, je le signale tout de suite, donc ce n'est pas du direct, c'est une interview. Mais alors, avant cette interview, je vais vous faire entendre un petit peu de musique. Vous savez que le film de Pasolini s'appelle « Les contes des mille et une nuits », c'est donc un film sur les mille et une nuits, naturellement, où on retrouve Haroun al-Rachid, enfin tous les personnages célèbres des mille et une nuits. Et je vais vous faire entendre un tout petit morceau de musique, et vous allez être très surpris. Car, et nous en parlerons d'ailleurs, vous l'entendrez tout à l'heure avec Pasolini, j'en ai parlé avec lui, car ce que vous allez entendre pour accompagner les Contes des Mille et Une Nuits, c'est Mozart. Alors, vous allez entendre quelques secondes de la musique des Contes des Mille et Une Nuits de Pier Paolo Pasolini. Donc, comme vous le voyez, c'est très inattendu, mais nous allons, Pasolini va s'en expliquer tout à l'heure. Alors, la première question que je lui ai posée, c'est évidemment, il a dit partout qu'il voulait faire un film réaliste, enfin, en partie réaliste, à quoi je lui ai répondu que ces mots réalistes, pour nous, les Contes des Mille et Une Nuits, ce n'est pas vraiment du réalisme, c'est une espèce de féerie poétique et merveilleuse, où il y a tout le merveilleux de l'Orient. Et je lui ai demandé ce qu'il entendait par un film réaliste. Alors voilà ce qu'il m'a répondu.
Peut-être j'ai dit comme ça que j'ai voulu faire un film réaliste. Mais pas seulement un film réaliste. Peut-être j'ai dit que Les Mille et Une Nuits consiste en deux films. C'est-à-dire un film réaliste, le visage, les coutumes, les paysages, les maisons, la poudre, etc., sont très réalistes, toujours. Mais il y a un deuxième film qui est complètement onirique, plus encore que féerique, parce que l'onirisme de Mes Mille et Nuits, ce n'est pas la féerie classique, traditionnelle, qu'on imagine pour Les Mille et Nuits, c'est une autre chose.
D'ailleurs, il y a un des personnages dans le film qui dit, je crois que toute la vérité est dans beaucoup de rêves. Je cite de mémoire, mais je crois que c'est ce qu'il dit.
Il dit que la vérité n'est pas seulement dans un rêve, mais en plusieurs rêves.
Et ce qu'il y a de merveilleux dans votre film, que j'aime beaucoup, je dois dire, c'est que, en effet, moi aussi, j'ai été frappé par le réalisme que vous venez d'indiquer, des paysages, des costumes, des personnages aussi. Et vous avez également fait un film qui est du merveilleux et qui est un film très poétique. Et les deux films sont très bien liés ensemble. Généralement, quand on fait deux films en un, ce n'est pas très bien. Mais là, c'est très harmonisé.
Oui, j'espère, parce que le réalisme, c'est le matériel. Le matériel, c'est très réaliste, parce qu'il n'y a pas des acteurs professionnels, il n'y a pas du décor reconstruit en théâtre, il n'y a pas rien de faux, tout est réel là. C'est-à-dire le matériel est réel, mais le matériel est organisé dans une façon onirique. Mais de toute façon aussi dans les textes de Mille et Nuit, c'est comme ça, hein.
Oui.
Il y a beaucoup de choses très réelles, très vraies, très quotidiennes, etc.
Vous avez choisi parmi les nombreux contes des Mille et Une Nuits, vous en avez choisi une dizaine environ. Pourquoi avez-vous précisément choisi cela?
Oh, il n'y a pas de raison. J'ai lu tout l'énorme volume des Mille et Une Nuits, très libre. Et quand j'ai lu un conte que j'aimais, j'ai fait un signe. Le choix, c'est complètement arbitraire. C'est mon amour pour les contes, et rien d'autre.
Et vous avez quand même choisi ceux que vous préfériez et ceux que vous pensez qui étaient le plus propre à l'illustration cinématographique.
Non. J'ai choisi ce que j'ai aimé vraiment, ce qui m'a passionné vraiment et profondément. Après, j'ai compris que peut-être j'ai choisi, sans le savoir, et maintenant je le sais, les contes moins traditionnels, mais plus caractéristiques de Mille et Nuit. Parce que les contes de Mille et Nuit sont toujours, pour moi, l'histoire d'une anomalie du destin. Le destin, c'est la normalité. Tout en coup, le destin se manifeste dans une autre façon qui est anormale. Alors, on commence une série et commence une sorte de voyage qui est l'expérience de l'ailleurs, de quelque chose d'autre.
Ce qui est très merveilleux dans le film aussi, c'est que vous avez tourné dans beaucoup de pays. Vous êtes allé en Perse, en Érythrée, en Inde, dans énormément de pays de l'Orient. Et que toutes ces images que nous voyons restent tout de même harmonieuses. Il n'y a aucune rupture.
Le paysage du Népal est très différent que le paysage du Yémen, bien sûr. Mais la catégorie, c'est la même. Ils sont des pays très anciens, agricoles, religieux. Ils ont des caractéristiques communes. Qui lit aussi dans la réalité les paysages, aussi s'ils sont très, très différents.
C'est une synthèse de l'Orient, en somme.
Oui, de l'Orient du tiers-monde, je voudrais dire.
Oui.
Je commence avec l'Érythrée.
Ce qui est merveilleux dans votre film aussi, c'est que vous n'êtes tombé dans aucun des pièges que tente généralement ce genre de film, c'est-à-dire dans le bazar oriental. Enfin, on le savait, avec vous, on n'avait pas de crainte. Mais, par exemple, pour la musique, vous avez volontairement pris une musique qui n'est pas une musique orientale arabe, vous avez pris une musique occidentale, une musique normale.
Oui, j'ai pris Mozart oui. Et Stravinsky, qui sont une musique qui s'appelle des commenti en italien, on dit.
Commentaire.
Le commentaire musical. Mais j'ai pris aussi des musiques que j'ai enregistrées là-bas, dans le pays. Et c'est une musique très originale, peut-être jamais enregistrée. Il y a de la musique en Népal, qui je crois, pour un. Comment dit. Musicologue. On dit comme ça.
Musicologue, oui,
c'est très,
très bien.
Intéressant.
Oui.
Je crois que ce soit très, très intéressant.
Et oui, mais ce qui est très intéressant aussi et très bien, c'est que ces deux musiques-là, ces deux genres de musique, sont complètement fondues. On ne s'aperçoit pas du tout d'un changement de rythme, d'un changement de style, pas du tout.
C'est le même phénomène que, dans lequel nous avons parlé. C'est-à-dire, la musique que j'ai enregistrée là, c'est le réalisme. Et la musique de Mozart et de Stravinsky, c'est le visionnaire, l'onirique.
C'est ça, c'est une correspondance entre la musique et les images. Dites-moi, il a dû se poser un problème important pour vous, c'est le problème de l'interprétation. Il n'était pas question, évidemment, pour un film comme celui-ci, d'avoir des acteurs connus. À part deux, je crois, que vous avez gardés, qui sont des acteurs qui ont déjà tourné avec vous, tous les autres ont été choisis sur place.
Oui, sur place.
Et ce ne sont pas des acteurs professionnels?
Ah non, non, tout à fait. Il y a quelqu'un qui n'a jamais vu un film dans sa vie. Dans les mains, j'ai choisi des paysans qui ne connaissent pas le cinéma.
Après ces Mille et une nuits qui sont un peu la mythologie arabe, si l'on veut, vous n'êtes pas tenté de faire la mythologie grecque. Je sais, vous avez fait quelques films, notamment Médée, par exemple. Mais c'était un épisode très, très localisé, très particulier. Tandis que pour les Mille et une nuits, vous avez fait un ensemble, une espèce de grande fresque. Ça ne vous intéresserait pas pour la mythologie grecque?
Non, je ne suis pas intéressé pour la mythologie. Parce que la mythologie grecque est devenue le classicisme. Je n'aime pas le classicisme.
Elle est moins réaliste, d'ailleurs.
Elle est moins réaliste. Non, peut-être elle est réaliste, mais dans le monde archaïque grec. De toute façon, j'ai fait aussi l'Édipe Roi, qui est un film sur la mythologie grecque ancienne, c'est-à-dire préhistorique. Pas de l'âge de Sophocle.
C'est-à-dire que cela vient peut-être aussi, vous disiez tout à l'heure très justement, que c'est devenu classique, la mythologie grecque. En effet, parce que des grands auteurs, Sophocle, Euripide et d'autres, ont pris cette mythologie, elles l'ont racontée, elles l'ont mise au théâtre. Alors que la mythologie arabe, c'est surtout une mythologie de conteurs.
Oui, c'est une mythologie qui est restée mythologie, c'est-à-dire populaire.
C'est ça.
Elle n'est pas passée à la culture de la classe dominante, c'est-à-dire à Racine. Il n'y a pas une Racine arabe.
Et du point de vue, vous parlez de Racine, ça m'amène à vous poser aussi une autre question. J'avais été très frappé, par exemple, pour le Décaméron, il y avait une influence assez importante, je crois, de la peinture. Peinture de la Renaissance. Or là, dans Les Mille et une Nuits, il n'y a aucune espèce d'influence de peinture. D'abord, je pense, parce qu'il n'y a pas de peinture arabe, en somme.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, je suis toujours influencé par la peinture. J'ai commencé comme peintre. J'ai fait de la peinture pour comprendre la peinture des autres. Parce que à l'université, j'ai étudié avec Roberto Longhi, qui est le critique d'art le plus grand en Italie. Et il est mon maître. Et alors, j'ai commencé avec un grand amour pour la peinture. Et alors, si aussi les Mille et une Nuits sont influencés par la peinture. Peut-être pas, il n'y a pas de peintre comme pour l'Évangile. Pour l'Évangile, on peut parler de Masaccio et de Piero della Francesca. Pour le Decameron, on peut parler de Giotto.
Giotto, oui.
Pour les Mille et une Nuits, on peut pas faire de noms de peintres. Mais il y a toujours une influence peinturale.
Je vais vous faire un très grand compliment. Finalement, quand j'ai vu le film, j'ai l'impression, justement, comme il n'existe pas une peinture traditionnelle, une peinture vraiment arabe, j'ai l'impression qu'avec ce film, vous l'inventez.
Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Mais il y a des milliers...
Vous inventez la peinture arabe avec le film, sûrement.
Ah oui, peut-être, j'espère.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous avez déjà un projet précis?
Oui, j'ai des projets et je suis incertaine. Oui, je ferai les deux. Je ne sais pas avec lequel commencer, le premier. Un film, c'est un vieux projet, c'est un film sur la vie de Saint-Paul. Mais c'est un film qui se déroule dans le monde moderne, c'est-à-dire Jérusalem, c'est Paris, Rome, c'est New York, etc. Et c'est un film contre l'Église. Parce que je considère Saint-Paul partagé en deux, les saints et les prêtres. Alors les saints, bien, mais les prêtres, c'est horrible, c'est odieux, antipathique. L'autre film, c'est un film sur l'idéologie. Je voudrais faire un film comique, métaphorique, un peu comme Uccellacci Uccellini, un peu comme Théorème, sur l'idéologie. Le problème que je pose, c'est l'utilité de l'idéologie, les rapports entre l'idéologie et la réalité, etc. Dans mon film, l'idéologie, c'est une comète, et l'homme, c'est un roi mage napolitain qui suit la comète. Et en suivant la comète, il fait expérience de la réalité.
Il y a toujours, d'ailleurs, en vous, je sais, une pensée chrétienne très profonde, et tout de même, les films que vous faites peuvent être considérés par certains un peu comme, sinon blasphématoires, mais enfin comme pas spécialement chrétiens. Comment l'expliquez-vous?
La blasphème, c'est toujours religieuse.
Oui. Ne pas croire à l'enfer et au ciel, c'est évidemment être déjà religieux.
Eh oui, bien sûr. Vous savez, dans toutes les religions, il y a la bénédiction et la malédiction, c'est la même chose. La prière et les blasphèmes sont la même chose. C'est la contradiction qui s'identifie dans un mal sentiment. Dans toutes les religions anciennes, il y a un mélange entre le blasphème et la prière.
Vous aviez fait déjà l'évangile selon saint Matthieu, qui était très beau et qui était une œuvre, au fond, profondément chrétienne, sans en avoir l'air.
Oui, c'est vrai.
Et maintenant, c'est saint Paul qui vous tente.
C'est saint Paul, mais ce qui est le contraire de l'évangile. C'est-à-dire, dans l'évangile, j'ai vu l'histoire à travers les yeux d'un homme simple qui croit. Mais saint Paul, c'est un pamphlet contre l'Église, parce que l'Église, c'est l'organisation, et l'organisation, c'est la mort du sentiment.
Et vous pensez le faire bientôt? Ou saint Paul ou l'autre film?
Oui, j'espère l'un ou l'autre, j'espère de le commencer en septembre.
Enfin, une dernière question. Certains disent, l'écrivent même parmi mes confrères, disent que vous avez certaines obsessions dans vos films, ou obsessions sexuelles, ou obsessions autres. Évidemment, dans les Mille et une nuits, comme dans les autres de vos films, il y a des images assez réalistes de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez vraiment, vous, que vous avez des obsessions et que vous avez besoin de les traduire par le film?
Oui, je suis obsédé et j'ai un système stylistique paranoïque. Mais c'est toujours comme ça. Chaque système, c'est paranoïdé.
Le rêve aussi fait partie d'une obsession, d'ailleurs.
Le rêve, c'est le lien où les obsessions vivent.
Vous m'avez dit, Pier Paolo Pasolini, au début de cet entretien, et même avant que nous ayons un micro, que vous alliez faire quelques coupures dans votre film pour l'exploitation en France.
Non, pourquoi? Pas en France. Pour moi-même, j'ai fait encore des coupures. Parce qu'il faut voir une fois le film avec le public. Et j'ai vu le film avec le public seulement hier soir. Et alors, en le voyant avec le public, j'ai compris qu'il y a des petites choses à couper, pas beaucoup. Mais il y a quelques longueurs qui donnent l'idée que le film soit long. Mais je suis sûr que si je fais quelques petites coupures, surtout en principe, le film sera plus...
Allégé,
oui.
Il n'est pas sorti encore en Italie?
Non, il sortira en septembre.
Et en France aussi, vraisemblablement?
Je pense aussi en France, en septembre.
Eh bien, merci.
Vous venez d'entendre Pier Paolo Pasolini à propos de son film « Les Mille et une nuits » au micro de Roger Réjean dans un numéro des Arts du spectacle. Première diffusion, le 24 mai 1974, dans les matinées de France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.